Chapitre 24. C'était là un grand point d'obtenu pour Louis. Le marquis consentant au mariage de Denise, il n'avait plus rien à désirer. Mais ce consentement, donné aujourd'hui avec tant de facilité, ne serait-il pas repris demain? S'il avait persuadé le marquis, c'était parce que Clémence n'était pas là. Celle-ci, revenue, ne le persuaderait-elle pas à son tour, dans un sens absolument contraire? Tout était possible, tout était à craindre, avec un homme sans volonté. Plein de bonté, plein de générosité, il est vrai, mais par-dessus tout, plein de faiblesse. Qu'adviendrait-il de la résolution qu'il venait de prendre lorsqu'il serait aux mains de Clémence, seul, entièrement livré à la puissance qu'elle avait su acquérir sur lui? À quels moyens celle-ci n'aurait-elle pas recours pour changer cette résolution? Il savait maintenant de quoi elle était capable, par la justification qu'elle avait entreprise dans le coupé de la diligence, par les arguments dont elle s'était servie, par la scène qui avait suivi cette comédie à laquelle un moment il s'était laissé prendre. Il avait appris à la connaître et il voyait à peu près clairement le rôle qu'elle avait joué depuis son arrivée à Rudemont jusqu'à ce jour. Était-il sage de penser qu'à son retour, elle accepterait, les bras croisés, la destruction de son plan et se résignerait la tête basse au mariage de Denise? Il y avait 1000 à parier contre un qu'elle voudrait au contraire lutter et qu'elle saurait trouver des armes formidables pour l'emporter. Elle pouvait de nouveau emmener le marquis à l'étranger et si bien se cacher qu'il fût impossible de les découvrir. Dans la retraite qu'elle aurait choisie, le marquis s'éteindrait près d'elle. Que deviendrait Denise pendant ce temps? Livrée à la sœur Sainte-Ursule, que n'aurait-elle pas à souffrir? Pendant quelques instants, Louis tâcha d'envisager avec calme la situation qui se présentait. Devait-il se contenter du succès qu'il avait obtenu? Devait-il au contraire le pousser plus loin et, mettant à profit l'absence de Clémence, engager la lutte de telle sorte que celle-ci ne pût rentrer à Rudemont? Ce parti radical et audacieux était bien grave à prendre. Cependant, ce fut celui auquel il se rangea. D'abord parce qu'il avait la conviction que, s'il ne commençait point cette lutte, ce serait Clémence qui l'entreprendrait, si bien qu'à attendre, il n'aurait rien gagné et qu'il aurait, au contraire, perdu la force que lui donnait la position qu'il venait de conquérir. Ensuite, parce que ce parti était le seul qui s'accordât avec sa conscience. Son amour n'eût pas été en jeu, Denise n'eût pas été en danger, qu'il eût dû encore, au nom de son amitié et de sa reconnaissance pour son cousin, combattre franchement Clémence. N'était-ce pas le seul moyen de sauver le marquis? Avec l'assurance que donne la jeunesse, il avait la résolution que donne la droiture. Aussi, quoi qu'il vît les dangers de sa tentative, ne se laissa-t-il point arrêter. Il était de la race de ceux qui partent malgré tout, quand leur conscience leur a ordonné de partir et qui vont jusqu'au bout. Il devait faire, il ferait. Le temps lui était étroitement mesuré, car il devait agir avant le retour de Clémence et, avant d'engager le combat, il devait s'assurer le concours des alliés sur lesquels il comptait s'appuyer. Aussi, lorsque le marquis l'avait invité à déjeuner, avait-il refusé. « Je reviendrai dîner avec vous, avait-il dit, et même je reviendrai de bonne heure. Mais ce matin, il faut que je sois à Condé. » Il avait calculé que Clémence ne pourrait pas être de retour avant la nuit et, d'ici là, il fallait qu'il lui mît en jeu auprès du marquis des influences assez fortes pour pouvoir intervenir lui-même d'une manière efficace. Ces influences sur lesquelles il comptait étaient celles du médecin et du prêtre. Il voulait que le docteur Gillet vînt à Rudemont et, dans un entretien avec le marquis, révélât à celui-ci la vérité ou tout au moins cette partie de la vérité qu'un médecin pouvait dire, celle qui s'appliquait aux précautions que le marquis devait prendre pour ne pas se tuer sûrement et promptement. D'autre part, il voulait que l'abbé Marbeuf, autrefois curé de l'église de Mulsan, où il avait fait faire la première communion du marquis, maintenant chanoine de la cathédrale de Condé, vint aussi au château et fit entendre à son ancien élève la voix de la religion. Le marquis avait toujours eu une certaine crainte des médecins, alors même qu'il était bien portant, et maintes fois Louis lui avait entendu exprimer sa confiance dans le savoir du docteur Gilet, estimant peu l'homme, mais plaçant haut le médecin. Quant à sa déférence pour l'abbé Marbeuf, elle touchait à la vénération, et jamais il n'avait manqué une occasion de la lui marquer ostensiblement. Lui, qui ne visitait personne, allait tous les ans, au 1er janvier, en voiture de gala, faire visite au vieux chanoine, et chaque fois, c'était une révolution dans la rue du Cloître que l'arrivée de la calèche du marquis de Rudemont, avec ses laquais en grande livrée. Avec cela, élevé dans des idées religieuses qui ne s'étaient jamais effacées et qui avaient toujours gardé une influence réelle sur son esprit, malgré les désordres de sa jeunesse, il était parfaitement possible qu'il se laissât toucher par la voix du vieux chanoine quand celui-ci lui reprocherait le scandale que sa liaison publique avec une femme mariée causait dans tout le pays. Menacé de mort par le médecin, de damnation par le prêtre, il se laisserait peut-être ébranler, et ce serait alors le moment de s'attaquer résolument à Clémence. Lorsqu'il exposa son plan au docteur Gilet et lui demanda son concours, celui-ci le promit volontiers. Il n'avait aucun intérêt à ménager Clémence qu'il ne connaissait pas, et il envoyait un réel, au contraire, à venir en aide à Louis, qui, en tout cas, lui paierait ce service rendu. Si l'affaire ne réussissait pas comme magistrat, si elle réussissait comme héritier du marquis et, en cette qualité, l'un des plus riches propriétaires du pays. « Je suis heureux de me mettre à votre disposition, dit-il, et ce sera pour moi une satisfaction très agréable de penser que, pour ma part, je vous ai aidé à devenir propriétaire de Rudemont. » Louis n'avait pas imaginé qu'on envisagerait ses démarches à ce point de vue. Mais il ne se donna pas la peine de donner au médecin, qui probablement ne l'aurait pas cru, les raisons qui le faisaient agir. « Quand faut-il partir ? » demanda le médecin. « Quand j'aurai décidé, monsieur Marbeuf, car je voudrais que sa visite suivît la vôtre de près. Je vous préviendrai donc de notre départ pour que vous nous devanciez de peu. Peut-être vous fera-t-on de l'opposition pour vous empêcher de pénétrer auprès de mon cousin, « mais vous n'êtes pas homme à vous laisser barrer une porte par un domestique. » Avec le chanoine, Louis rencontra moins de facilité. Monsieur Marbeuf avait été certainement un des meilleurs prêtres du diocèse de Condé, mais présentement, il avait 75 ans et ce qui avait été mansuétude chez lui était devenu placidité avec l'âge. Son ardeur pleine de zèle s'était éteinte et elle avait été remplacée par une indulgence optimiste qui lui faisait dire, à propos de tout et de tous, « Allons, c'est bien, c'est très bien. » Quand Louis lui eut expliqué ce qu'il attendait de lui, M. Marbeuf commença par pousser les hauts cris, répétant 10 fois une de ses phrases favorites, « Quelle affaire ! Quelle affaire !» Louis insista, s'adressa à sa conscience, à sa foi, et finalement, le bonhomme finit par dire « Allons, c'est bien, c'est très bien. » Mais une autre difficulté se présenta, car monsieur le chanoine était très ponctuel pour ses 3 repas, pour son coucher, pour son lever, pour sa sieste. Comment concilier tout cela avec un voyage à Rudemont ? Louis arriva à cette conciliation et après avoir vu partir le docteur Gilet dans son phaéton, il eut la satisfaction d'embarquer M. Marbeuf dans une calèche de louage. Lorsqu'ils arrivèrent à Mulsan, ils croisèrent le docteur qui descendait la côte. Celui-ci s'arrêta et Louis, descendant de calèche, alla s'entretenir avec lui. « La bonne chance a voulu, dit le médecin, que le marquis eut une peur effroyable de la mort. J'ai excité encore cette crainte salutaire et lui ai démontré comment il pouvait ne pas mourir et comment il pouvait se tuer. Je crois que j'ai produit une impression terrible. Au bonhomme Marbeuf de faire le reste. » Le chanoine fut moins expéditif dans sa visite que ne l'avait été le médecin. Il resta 2 heures avec le marquis. Ces 2 heures, Louis, qui, bien entendu, n'était pas entré avec lui, les passa à marcher de long en large dans la bibliothèque et plusieurs fois il vit passer son oncle Artème qui se promenait devant les fenêtres d'un air inquiet et troublé. Enfin, le chanoine sortit de l'appartement du marquis. C'est une belle âme que notre cher marquis, dit-il à Louis. Il a reconnu ses erreurs, j'espère qu'il aura la force de les réparer et le temps de les expier. Je vais prier pour lui. » Après avoir mis M. Marbeuf en voiture, Louis, à son tour, entra chez son cousin.